Bonjour, vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté. Alors avant de commencer cette émission de bien-être, de détente, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille, baissez les lumières et vous pouvez vous déchausser pour être plus à l'aise. Asseyez-vous sur un tapis et pour ceux qui sont moins souples, sur une chaise ou un fauteuil bien dur, de façon à ne pas vous affaisser car il est important de garder son dos bien droit pour éviter des tensions et des douleurs. Dans la première partie, nous allons parler du yak, puis nous continuerons avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Ensuite, nous ferons quelques petits exercices physiques. Alors je rappelle que ce sont des exercices très basiques car il est très difficile de présenter à la radio une grande diversité de ceci et de difficultés croissantes. Toutefois, s'il vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir les vidéos sur mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Nous ferons également une petite pratique de méditation bouddhiste tibétaine et nous terminerons sur la phrase de la semaine. Le yak est à l'Himalaya ce que le chameau est au désert et le renne à la toundra. C'est l'animal de survie de l'Himalaya. Les yaks sauvages, autrefois nombreux, se font de plus en plus rares aujourd'hui. Les hauts plateaux de l'Himalaya, le Changtang principalement, constituent son principal habitat. Le mâle adulte pèse en moyenne 600 kg. Un gros spécimen peut peser jusqu'à une tonne. La femelle du yak est appelée nak ou dri. Le yak est un animal robuste et puissant, possédant une longue toison épaisse qui dissimule ses pattes courtes et le protège contre le froid et les intempéries. Sa tête est pourvue de longues cornes pointues, d'autant plus dangereuses que le yak se déplace tête baissée. On dit du yak qu'il est timide, craintif et redoutable à la fois. Son caractère est ombrageux et imprévisible. Pour mieux respirer dans un air raréfié en oxygène, il possède un cœur et des poumons très développés et son taux de globules rouges est supérieur à celui des bovins des plaines. Malgré sa corpulence, le yak est d'une agilité remarquable, même sur les plantes les plus escarpées. Si la pente devient trop raide, il peut même monter sur les genoux. Le yak n'est pas à l'aise à une altitude inférieure à 3000 mètres. Si le yak sauvage est de plus en plus rare, le yak domestique est par contre largement répandu en Himalaya. Les nomades tibétains vivent essentiellement de l'élevage du yak. Le yak est indéniablement l'animal le plus utile aux populations tibétaines qui l'élèvent pour sa chair, sa laine, sa peau, son lait et sa bouse. Son lait est baratté pour en faire du beurre et du fromage. Sa laine sert à confectionner vêtements et couvertures, de même que les tentes sous lesquelles s'abritent les nomades tibétains. Sa peau est utilisée pour confectionner bottes et sacoches. Sa bouse sert enfin de combustible. Les yaks font la fierté de leurs propriétaires. Chez les Sherpas, posséder des yaks suscite la considération. Les Sherpas utilisent leur yak surtout comme animal de bât. Ils conduisent des caravanes de yaks, transportant le matériel des alpinistes et des trekkers, se rendant notamment dans la région de l'Everest. Le yak est un animal pouvant endurer des températures pouvant atteindre jusqu'à moins 30 degrés. Donc rien ne sert de construire des abris les yaks préféreront la compagnie des arbres, de la neige et du vent. La saison estivale est celle qu'ils préfèrent le moins. Pendant cette saison, vous les verrez bien allongés à l'ombre des arbres, en haletant comme le font les chiens et buvant beaucoup d'eau. Par contre, s'ils n'aiment pas particulièrement cette saison pour sa chaleur, ils l'adorent pour l'herbe fraîche qu'elle leur procure. Comparativement aux bovins que nous connaissons, le yak est un animal très économique. Pour une même superficie de pâturage, vous pouvez mettre 4 femelles yak là où vous auriez mis une seule vache de boucherie et 2 mâles yak pour un seul taureau. Si l'on compare au poids, la femelle yak mange environ 7 livres de fourrage par jour, alors que la vache en a besoin d'environ 25 livres. Si le bovin a besoin de 8 livres de fourrage, le bison 12 livres, le yak, pour sa part, n'a besoin que de 7 livres de fourrage par jour pour gagner 1 livre de poids. Nul besoin d'hormones, de suppléments alimentaires et encore moins de grains de finition pour garder le yak en santé et maintenir sa croissance. Étant un animal à cornes, la manipulation du yak demande un équipement adéquat. Pour éviter les blessures dues à un faux mouvement de la part de l'animal ou de l'humain, la cage de contention est l'élément indispensable. Une simple clôture à bovins est cependant suffisante pour délimiter les enclos, puisque le yak est un animal calme et qu'il ne défonce pas les clôtures. C'est un animal facile à diriger, tout simplement à l'aide d'un long bâton qui va lui servir d'aide visuelle et de guide. Parce que le yak n'est pas un animal agressif. Les femelles, pour leur part, sont quand même très protectrices de leurs petits. Et quand une situation leur est inconfortable ou qu'elles sentent un danger provenant d'un intrus, elles émettront quelques grognements ou renifleront en secouant la tête. Cependant, si le danger persiste, elles prendront d'autres moyens pour protéger les petits. Et nous enchaînons avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Il est important de développer la vigilance dans notre quotidien le plus souvent possible. Mais encore une fois, y aller relax et prendre le temps de réfléchir à notre propre existence humaine et dans la situation dans laquelle on se trouve, et ainsi choisir le meilleur chemin pour soi-même. Dans le bouddhisme, les autres sont importants, mais moi aussi je suis important. Dans le bouddhisme, c'est le bonheur des autres, mais c'est aussi mon bonheur. Parce que si on ne trouve pas le chemin de la paix en nous, eh bien, nous ne pouvons pas aller vers les autres. Nous ne pouvons pas les aider. Nous ne pouvons pas leur apporter un peu de joie, de bien-être. Et c'est pourquoi il est important de réfléchir sur les enseignements qu'on reçoit et sur les textes que nous lisons. Car que faire de sa vie à travers les enseignements? Nous ne sommes pas des moines, nous avons une vie laïque avec beaucoup de contraintes et de stress. Et c'est sur cela que la méditation va porter ses fruits. C'est-à-dire que si on prend l'habitude de méditer chaque jour, eh bien, on ne va plus voir ses contraintes comme telles. C'est-à-dire que on ne va pas les amplifier comme on a l'habitude de les amplifier. Quand quelque chose ne va pas, on a tendance à y mettre beaucoup de saisie et amplifier tout ce qui ne va pas et ainsi nourrir l'émotion qui va grossir de plus en plus et qui va entraîner de plus en plus de confusion dans l'esprit, et ces contraintes vont prendre une place immense dans notre tête et en nous. Et là, le fait de méditer tous les jours, d'apprendre à se poser, va nous aider à ne pas rester sur ces gros stress, sur ces contraintes. Parce que on va se rendre compte que tout est impermanent, qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre, et que c'est important de ne pas gaspiller notre existence humaine. Et lorsque nous sommes trop dans la saisie, soit dans nos attentes, soit dans nos rejets, ou bien dans le passé, ou dans le futur, notre esprit, eh bien, il est pris dans les émotions, ces émotions qui nous amènent beaucoup de confusion et de souffrance. Et nous passons ainsi à côté de plein de belles choses qu'on a laissées filer et qui ne reviendront plus. Et la méditation, eh bien, elle va nous apprendre, nous amener à prendre le temps de voir l'essentiel. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des choses très simples en fait. C'est par exemple prendre le temps de voir nos enfants grandir, prendre le temps de voir le printemps arriver, ou bien de s'arrêter sur une belle fleur ou l'envol d'un oiseau ou des étoiles dans le ciel. En fait, c'est apprendre à profiter pleinement de ce qui est beau et de ce qui nous est offert au quotidien et qu'on ne voit pas parce que notre esprit est trop pollué. Et si on est tout le temps dans la saisie, eh bien, on est complètement centré sur soi et on a tendance à voir surtout ce qui ne va pas. Et on connaît tous des gens qui ont tendance à ne vous parler de ce qu'ils ont comme souffrance, de ce qui ne va pas, de la société, etc. Et ces gens-là, eh bien, du coup, on n'a pas envie d'être près d'eux parce que ils noircissent tout. Et du coup, ils sont de plus en plus seuls et ainsi, ils ont l'impression que les autres ne les aiment pas, ils tombent dans une espèce de spirale comme ça, négative. Et ils ne vivent qu'avec des regrets sur les choix qu'ils auraient dû faire sur le passé, ou bien entretiennent des rêves sur un futur illusoire et sont jaloux de tout ce qu'ont les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, ils se laissent piéger justement par toutes ces émotions qui amènent beaucoup de confusion dans leur esprit et il en découle beaucoup de négativité. Et sans un chemin spirituel, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Et encore une fois, un chemin spirituel est un état d'esprit à développer et non une religion. Et il suffit de s'entraîner un peu chaque jour. Et la méditation va nous aider à pacifier notre état. Et ainsi, dans les moments de joie ou de tristesse, on va les vivre, mais sans saisir, sans se laisser emporter. Et dans la joie, ce ne seront pas des moments d'exaltation, mais plutôt d'exultation. Et pour ce qui est de la tristesse, eh bien, on va essayer de positiver ce qui nous rend triste. Et même si on n'arrive pas à le positiver sur le moment, il est évident que grâce à la méditation, on va trouver des petits espaces comme ça dans la journée qui vont faire qu'on va se poser et qu'on va penser à autre chose que ce qui nous attriste. Ce qui crée la difficulté, c'est que nous sommes toujours dans la saisie du jeu. C'est moi qui suis au centre de ce qui m'arrive. On réagit toujours par rapport au jeu. Et comme on est complètement pris par les émotions, on n'arrive pas à avoir de la distance. Et c'est pourquoi les maîtres nous disent qu'il est très important de développer cette vigilance, de voir ce qui m'arrive, de voir comment ça m'arrive. Et on va ainsi de mieux en mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve, et ceci grâce à la vigilance. Alors, bien sûr, on est complètement investi dans notre vie, entre le travail, la famille, les amis. Et il est important de faire ce qu'on a à faire tout au long de la journée. Mais grâce à la méditation qui nous aide à développer cette clarté d'esprit dans notre quotidien, par petites doses, nous allons continuer à développer cette vigilance, cette distance intérieure. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Je vous rappelle donc que vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h et tous les dimanches à 9h, mais aussi sur Internet. Vous allez sur Google, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. On se retrouve dans un instant.
இளமை அழானது இடையழகில் இருந்தெழுது இசைந்திடவா. காதல் வருமா காதல் வருமா காண வருமா கனவு வருமா காதல் வருமா காதல் வருமா காண வருமா கனவு வருமா
Et nous enchaînons avec quelques petits exercices physiques. Donc, soit vous travaillez debout si vous êtes à l'aise. Si vous avez quelques difficultés, eh bien, vous pouvez faire ces petits exercices assis sur une chaise en gardant vos jambes décroisées, les mains sur les cuisses, le dos bien droit. Donc, nous allons commencer à assouplir les chevilles. Et en même temps, pour ceux qui sont debout, cela vous fera faire un petit exercice d'équilibre. Donc, vous allez monter les talons alternativement en pensant bien sur la base des orteils et en appuyant bien sur la base des orteils à chaque fois. Vous gardez le dos bien droit, les épaules ouvertes, la tête bien droite dans l'axe. Donc, vous continuez ce petit mouvement. Vous montez un talon et puis l'autre et vous recommencez tranquillement cet exercice entre 5 et 10 fois. La respiration est fine. Et maintenant, nous allons passer aux rotations d'épaule. Donc, vous arrêtez le mouvement de vos chevilles et vous faites des cercles d'avant en arrière, des mouvements de plus en plus amples. Tranquillement, sans à-coups, vous faites cet exercice 4-5 fois. Puis ensuite, vous partez dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Toujours, vous faites ces cercles avec vos épaules. Mouvement ample, sans à-coups, en veillant à garder le dos bien droit. Toujours la tête bien droite. Maintenant, vous arrêtez ce petit mouvement. Puis vous montez et vous descendez les épaules. Pareil, le mouvement doit être assez lent. Hein, et vous pouvez recommencer cet exercice 4-5 fois. Et si vous voulez le faire après au quotidien, vous pouvez aller jusqu'à 10 fois pour chacun de tous ces exercices. Et maintenant, nous allons travailler un petit peu les cuisses et un petit peu les abdos. Donc, pareil, ceux qui sont debout peuvent le faire debout, ceux qui sont assis peuvent le faire assis. Mais ceux qui sont assis, vous allez laisser les bras ballants de chaque côté de vos membres inférieurs. Et à chaque expiration, vous allez monter le genou près de la poitrine. Alors, les genoux alternativement, un coup genou droit, un coup genou gauche, tranquillement. Vous associez bien le mouvement à la respiration. Donc, je répète, en expirant, vous ramenez le genou près de la poitrine. En inspirant, vous reposez le pied par terre pour ceux qui sont assis. Et ceux qui sont debout aussi, vous reposez le pied par terre. Donc, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est un exercice que vous faites tranquillement aussi, une dizaine de fois. Maintenant, nous allons arrêter cet exercice et passer un petit peu à l'assouplissement des cervicales. Donc, vous allez faire des demi-cercles avec votre tête. Vous allez dessiner des demi-cercles. Donc, vous allez partir de la gauche vers l'épaule gauche. Puis, vous descendez le menton sur la poitrine. Puis, vous remontez votre menton sur l'épaule droite. Puis, vous redescendez votre menton sur la poitrine et vous remontez votre menton sur l'épaule gauche et vous continuez comme ceci tranquillement faire ce mouvement gauche en bas droite puis droite en bas gauche juste des demi-cercles sans forcer et sans vous précipiter. Donc vous pouvez faire ce mouvement 5 à 7 fois. Maintenant, on va travailler un petit peu l'assouplissement des chevilles. Donc ceux qui sont debout, eh bien vous allez être en équilibre sur le pied gauche. Pour les autres, ceux qui sont assis, vous allez croiser vos jambes, c'est le mieux. Vous placez vos jambes l'une sur l'autre. Et donc, vous allez faire tourner la cheville droite. 5 à 10 fois dans un sens, 5 à 10 fois dans l'autre, sans vous précipiter. Si ceux qui sont debout ont du mal à garder l'équilibre, eh bien vous vous asseyez par terre et vous pouvez aussi croiser les jambes, c'est-à-dire vous placez la jambe, la cuisse droite sur la cuisse gauche. Les jambes sont donc repliées et vous faites vos cercles avec vos chevilles. Puis maintenant, vous changez de cheville. Donc c'est la cuisse gauche qui va venir sur la cuisse droite et vous faites tourner donc votre cheville gauche 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, tranquillement, sans à-coups, en veillant toujours quand même à garder le dos bien droit. C'est un exercice que vous pouvez faire au quotidien et autant de fois que vous le voulez. Et maintenant, nous allons arrêter les exercices physiques et puis vous allez vous concentrer un petit peu sur votre respiration abdominale. Si vous avez des difficultés à faire cet exercice respiratoire, vous pouvez vous aider en mettant vos paumes de main de chaque côté du nombril, hein, sur le ventre. Et ce que vous faites à ce moment-là, à chaque expiration, vous appuyez très légèrement vos mains sur le ventre pour bien sentir votre ventre se rentrer et bien chasser tout l'air de vos poumons. Puis, vous relâchez vos mains, vous relâchez votre ventre et vous inspirez. Alors n'oubliez pas qu'en respiration abdominale, l'inspiration et l'expiration se font uniquement par les narines et que la respiration doit être la plus silencieuse possible. Plus la respiration sera silencieuse et plus votre respiration sera lente, régulière, profonde. Donc vous pouvez fermer les yeux pour faire cet exercice et pour vous préparer un petit peu à la pause musicale. Et on enchaîne avec la pratique de la méditation bouddhiste tibétaine. Donc, vous êtes assis, soit en tailleur sur votre tapis, soit sur votre chaise. Si vous êtes en tailleur, vous pensez à mettre peut-être un petit coussin sous le bassin pour vraiment vous aider à garder le dos bien droit. Si vous êtes sur une chaise, pensez à décroiser vos jambes, à avoir les membres inférieurs bien parallèles entre eux. On garde le dos bien droit. Nous sommes assis d'une manière confortable. Le dos droit, cela veut dire bien ramener le bassin vers l'avant. Parce qu'à partir de là, la colonne vertébrale va être droite et sans tension au niveau de la nuque. Nous pouvons prendre la mudra de la méditation en posant la main droite sur la main gauche, phalange sur phalange, pouce l'un contre l'autre. Les poignets sur les cuisses et les paumes des mains tournées vers le ciel. On garde les yeux ouverts de façon à ne pas se couper du monde extérieur. Si on ferme les yeux, on rentre un peu comme dans une espèce de bulle et après, lorsque nous allons retourner à nos activités, nous allons avoir beaucoup de mal dans la relation avec les autres, avec le monde extérieur. C'est pourquoi il est important de méditer les yeux ouverts. Si nous avons trop d'agitation mentale, on pose simplement le regard à 45 degrés vers le sol. Si au contraire, on tombe dans une semi-somnolence, dans la torpeur, on lève un peu le regard. On desserre les dents et les lèvres en laissant passer un léger sourire de façon à détendre les muscles du visage. Il est dit que si les muscles du visage sont détendus, tous les muscles du reste du corps sont détendus aussi. Et on reste ainsi dans cet état de paix, de détente intérieure, de tranquillité, ouvert à tous les phénomènes intérieurs et extérieurs, sans saisir quoi que ce soit. On reste ainsi, en étant simplement l'observateur de tout ce qui s'élève à l'intérieur de nous et à l'extérieur, sans s'y accrocher. Rien ne nous dérange, ni les bruits, ni les formes, ni les couleurs. On entraîne son esprit à être là, présent à l'instant, complètement détendu et ouvert. Juste concentré sur le souffle. À chaque fois qu'on inspire, on est conscient qu'on inspire. À chaque fois qu'on expire, on est conscient qu'on expire. Sans se concentrer, sans se forcer, juste détendu. Et lorsque nous nous rendons compte que nous suivons nos pensées qui s'élèvent, eh bien on revient tranquillement sur le va-et-vient du souffle, sans saisir le phénomène mental, quel qu'il soit. Ils apparaissent et on ne les saisit pas, puis ils disparaissent. Et c'est comme ça, d'instant en instant. On pourrait comparer notre esprit à l'océan avec ses milliards de vagues. Si on veut rendre l'océan plat, il faut enlever toutes les vagues. Et ça, c'est impossible. Et pour notre esprit, eh bien, c'est pareil. Une pensée s'élève, puis elle meurt. Et il y en a mille autres qui arrivent derrière. Et on ne peut pas arrêter les pensées. Il y en aura toujours, encore et encore, mais sans fin. Donc on entraîne simplement son esprit à les voir sans s'y accrocher, sans les suivre. Rien n'a d'existence propre. Une pensée apparaît, puis elle disparaît d'elle-même. Elle ne vient de nulle part et ne va nulle part. Thank you. reste dans cet état de détente. On essaie de développer la présence à l'instant et de voir notre esprit non perturbé, stable, assis, posé, cet aspect que les maîtres appellent népa, ou bien voir notre esprit en mouvement, une pensée qui s'élève, la perturbation qui prend place, puis une autre pensée, puis une autre, qui est le deuxième aspect que l'on trouve dans la méditation et que les maîtres appellent jiwa. Ne prenons pas cet aspect comme un défaut, c'est complètement normal. En méditation, notre esprit est tantôt dans le calme, tantôt dans l'agitation. Donc on s'entraîne simplement à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, sans fixer quoi que ce soit. On regarde tout, sans analyser, sans commenter. Et on reste ainsi, tranquille, posé, un émerveillement devant cette nature, devant la vie qui change d'instant en instant. Rien n'est figé. Tout se fait et tout se défait. Tout apparaît et tout disparaît. Tout naît et tout meurt à chaque instant. On est ouvert à tout sans saisir. Et rien ne nous dérange. Les saveurs, le goût, le toucher, on est complètement ouvert aux cinq sens sans saisir quoi que ce soit. Le corps est complètement relax. Et si on a mal quelque part, par exemple mal au dos, à la nuque ou au genou, eh bien on bouge un peu. On peut changer de position si on a besoin de changer de position. En méditation, on ne doit pas rester sur une douleur. Ce n'est pas une épreuve de force, donc si on a besoin de bouger, de s'étirer, eh bien on le fait. Parce que l'esprit ne peut pas se détendre si on reste sur une douleur dans le corps. Donc on n'hésite pas à bouger jusqu'à ce que le corps soit à nouveau sans tension. Puis on reste complètement disponible, ouvert, en étant ici et maintenant, d'instant en instant. L'esprit, il délire. On s'en rend compte et on revient. L'esprit, il s'ennuie, on s'en rend compte et on revient. L'esprit, il s'endort, on s'en rend compte et on revient. Et la méditation, c'est cela, d'instant en instant. On s'entraîne à retrouver cet état de simplicité, sans saisir aucun phénomène, ouvert à tous, sans s'approprier les êtres. Ouvert à tout et à tous, sans posséder chacun ou quoi que ce soit. Donc on relâche. On relâche complètement, mais sans tomber dans la torpeur. Lâcher prise sur l'ego, notre propre ego. Pas l'ego des autres, mais sur notre ego. Si on n'est pas vigilant, si on est dans la distraction, dans l'émotion, dans le conflit, eh bien, on est quelqu'un de pas libre. Donc, entraînons-nous à rester ainsi, posé, calme, détendu. Et notre esprit est de plus en plus clair, vigilant. Notre esprit est ouvert, vivant. Et on retrouve cette nature parfaitement claire et pure de notre esprit. Et c'est le but à atteindre. L'éveil, c'est de retrouver cette nature parfaitement claire qui a pour fondement d'abandonner, de nuire à soi-même et à autrui et d'être bénéfique envers soi-même et autrui. Pendant la méditation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au maximum, ne rien faire. Il ne faut rien faire avec le corps. Le corps, il est assis, donc immobile, donc on ne sent rien de spécial avec le corps. Avec la parole, il ne se passe rien puisqu'elle est silencieuse. Et avec l'esprit, c'est pareil. On laisse l'esprit tranquille. Si notre esprit est tranquille, on va vraiment développer les qualités qui vont nous amener au véritable bonheur. On est détendu, calme, on laisse tous nos problèmes, on laisse tous nos soucis. Dans la méditation, ce n'est pas le moment de rester sur nos problèmes. Dans la méditation, on lâche toutes ces perturbations. On ne saisit rien, ni les phénomènes désagréables, ni les phénomènes agréables. On laisse son mental nu, sans saisir ce qui s'élève. Dans le contexte spirituel, la méditation, ce n'est pas penser, ce n'est pas réfléchir, c'est simplement laisser l'esprit dans sa dimension ouverte et spacieuse. C'est retrouver cette sagesse inhérente à l'être, cette sagesse intérieure. Et on reste ainsi, sans saisir les cinq objets des sens, sans saisir aucun des phénomènes mentaux. On laisse simplement l'esprit tranquille, ouvert, uniquement concentré sur le va-et-vient du souffle dans son état de simplicité naturelle. Et maintenant, voici la phrase de la semaine qui est une citation de Gandhi. Une erreur ne devient pas vérité parce que tout le monde y croit. Pas plus qu'une vérité ne peut devenir erreur lorsque personne n'y adhère. Voilà, et bien nous arrivons au bout de votre émission Namasté. Émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h et tous les dimanches à 9h, mais aussi sur Internet. Vous allez sur Google, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. Pour les exercices d'étirement et de respiration, vous pouvez toujours aller voir les vidéos sur mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue au 6 rue de la Treille. Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne continuation et vous dis à très bientôt, j'espère. Sevdiğime pişman ettin vay. Ah, orada da koydun el gibi vay, 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 vay. Sevdiğime, sevdiğime pişman.
Limbura.